Une production du Studio SF.
Oh là là, les amis! We're back, baby! We're back, baby! OK, ça commence un peu intense. Je suis tellement content de revenir dans le Studio SF pour enregistrer à nouveau des épisodes de J'ai du temps de discute. En ces drôles de moments, le studio a réouvert. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vos proches et de vous-même. C'est vraiment la seule affaire que je peux vous dire. Je vous dirais, là. Fait que continuez de prendre soin de vous autres. Portez le masque. Pas pour vous, pour les autres. Faites attention. Et si t'écoutes ça, mettons, dans 6 ans, oublie tout ce que je viens de dire. Mais dans le fond, non. Prends soin de toi pareil, là. Tu sais, vraiment, tu peux faire ça. De la manière que ça a fonctionné aujourd'hui, c'est que pour relancer le studio SF, les boys du Sans Filtre podcast, Doomplant et PH Quentin, et moi, on s'est dit que ben, comme on est comme les deux premiers, entre guillemets, podcasts du studio, on allait faire un mash-up, une genre de rencontre entre nos deux podcasts. Donc, la première partie de ce podcast-ci s'est passée sur le Sans Filtre podcast. Donc, si vous voulez écouter la première partie de la conversation, chose que je vous conseille fortement parce que j'ai adoré ce moment, je vous invite à mettre ça sur pause, aller sur le Sans Filtre podcast, trouver le dernier épisode avec moi et écouter la première partie. Puis ensuite de ça, revenez à la deuxième partie de l'épisode qu'on a fait sur J'ai du temps de discute avec Doomplant et PH Quentin. Donc, fait que c'était, pour nous, c'était une espèce de mash-up. Dire, hey, regarde, on repart le studio en grand. Donc, on fait une rencontre de nos deux podcasts. Évidemment, on a respecté les règles de distanciation, on a cleané, on a désinfecté, on avait chacun notre petite mousse, on l'a lavé, on s'est lavé les mains, on s'est pas touché, tout ça. C'est des retrouvailles très froides, mais somme toute chaleureuses, curieusement. Je mentionne aussi que vous pouvez louer le studio SF si jamais ça vous intéresse de faire des podcasts de votre côté. Faites juste écrire au sansfiltrepodcast@gmail.com. Vous pouvez louer le studio à l'heure. C'est quelque chose de possible. Donc, gênez-vous pas, sansfiltrepodcast@gmail.com pour louer l'endroit. Et sinon, je vous laisse avec la deuxième partie de la conversation avec mes boys du Sans Filtre Podcast, PH Quentin et Doomplant.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles, J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
All right, c'est reparti.
Ce serait malade que là, genre, la conversation change drastiquement. C'est comme, hey, ouais, fait que les loutres, tu sais, comme on vient,
on est vraiment
super bubbly, là.
Aïe, aïe, ça coche, les gars.
Genre, le J'ai du temps de discute, c'est vraiment ça, là. On tombe vraiment dans un mode weird, là.
Ah, mais dans la micro-pause qu'on a pris pour changer de place, pour désinfecter encore une fois, c'est... Juste, j'allais à la salle de bain puis j'étais comme, ah, je suis tellement content d'être ici, je suis tellement content de faire ça. Bravo, merci encore une fois de m'offrir cette place-là dans le studio SF.
Ça nourrit tout le monde, là.
Je suis vraiment, vraiment, je me trouve bien chanceux. J'adore ça, bravo, merci.
Ça fait plaisir.
Ça fait du bien, man, de revenir ici faire un podcast avec toi en plus, c'est inspirant. Pour vrai, là, toute la première partie, j'étais plutôt silencieux, man, j'étais tellement dans ma tête parce que ce que tu disais, ça m'inspirait, Jay.
Ah, t'es fin.
Non, vraiment. Puis je trouve ça beau. Tu sais, parce que je me souviens quand tu venais ici, puis way back, tu disais, OK, tu avais déjà ton plan dans ta tête, il était quand même clair, tu sais. Je vais faire le Sandberg, je vais me raser les cheveux, je vais partir en voyage. Tout ça, c'était comme, on dirait que tu l'avais vraiment bien dans ta tête, puis on dirait que tout est arrivé selon le plan. Mm-hmm. On dirait que toutes les pièces se sont, clic, genre, agencées. Trouves-tu? Est-ce que...
Ouais, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que... J'ai la chance de travailler avec ma sœur. Mm-hmm. Et dans l'équipe, j'amène les idées, puis ma sœur, elle les exécute dans le sens, elle les rend possibles. Fait que, tu sais, le Centre Bell, on l'a booké il y a 2 ans.
Ouais.
Fait que, veux, veux pas, il y a 2 ans, ça veut dire que si on l'a booké il y a 2 ans, ça veut dire que ça fait 2 ans et demi que j'y pense, si c'est pas plus. Mm-hmm. Puis là, fait qu'à un moment donné, ça a comme. Tout ça aussi, c'est que notre job, c'est un peu aussi... on y pense un peu sans cesse, sans s'en rendre compte. Ouais. Fait que moi, mettons, ça fait longtemps que je pense à ma prochaine tournée. Évidemment, la COVID change la game, mais tu sais, j'ai écouté des podcasts, j'ai eu des idées, j'ai marché, j'ai pensé à des affaires. Fait que là, je fais comme, OK, tu sais, fait qu'on dirait que ça me prend beaucoup de temps prendre une décision, mais quand je la prends, on dirait qu'elle est ancrée dans plein d'affaires concrètes dans ma tête qui font en sorte que c'est comme, OK, oui, oui, OK, je suis prête à dire ça, go.
C'est sûr qu'elle se réalise, tu sais, il y a pas de...
Probablement, tu sais, ouais. Ça fait en sorte que la tournée, c'est probablement la première fois de ma vie où il fallait que je pense 2 ans d'avance. Mm-hmm. Fait que t'as toujours une espèce de, je pense qu'on va être rendu là. Mais ça fait aussi, ça marque ton esprit, je pense que, OK, ben dans 2 ans, une fois que le Centre Bell est booké, ben dans 2 ans, il faut que je sois rendu là un peu aussi.
Ouais, c'est ça.
Tu finis par prendre chaque décision en fonction de tout ça. Tu sais, fait que... Puis tu sais, même dans le temps que je faisais des bars, c'était ça, je me souviens, à un moment donné, j'avais majoritairement fait des shows à Montréal pendant l'année, puis juin est arrivé, puis les festivals étaient à Québec, Baie-Comeau, étaient en région, Val-d'Or, Gatineau. Puis là, je dirais, j'étais comme, fuck, je suis pas sorti... Mes jokes, sont-tu corrects pour... Sont-tu montréalais? J'ai-tu des jokes juste du métro puis de Berry-UQAM? De Rachel Berry?
Un stand-up comme... qui est juste sur Berry-UQAM.
Puis... ça a fait en sorte que l'année suivante, tu vois, je m'étais mis dans la tête, faut que je joue plus souvent à l'extérieur de Montréal. Mm-hmm. C'est l'année où j'ai animé Saint-Lazare puis Gatineau à chaque semaine. Puis tu sais, sur le coup, j'étais comme, Chris, c'est de la route. Puis je suis comme, oui, mais mon objectif, c'était ça cette année. C'était de m'assurer que je joue aussi, plus souvent à l'extérieur de Montréal pour juste ouvrir mon écriture un peu. T'sais. Fait que je pense que ça, c'est le genre d'affaire aussi où c'était un peu un plan où... l'été passé, à un moment donné, t'sais, j'animais un gala juste pour rire, j'avais une émission de radio, je faisais des podcasts, je tournais d'une web série, tout ça, c'était tout le fun. Mais à un moment donné, j'ai eu un meeting avec ma soeur faire c'est trop. Mm-hmm. T'sais, dans la partie 1, tu parlais, PH, tu parlais de comment, mettons, faut pas s'éparpiller trop, mm-hmm. T'sais, ouais. Pas faire 3 entraînements, faire 1. Et moi, ça a été un grand apprentissage dans la dernière année, faire. Là, je veux prendre le temps de faire une chose à la fois. Mm-hmm. Un peu ouais. Plus, du moins. Je me connais, j'aime avoir un rythme effréné. J'aime que les gens me disent « Voyons, t'es bien intense. » Tu sais, comme... Moi, je me nourris de gens intenses. Tu sais, tu check des Rogan, The Rock. Je suis plein de monde de même. Tu sais, que t'aimes ou pas ce qu'ils font, mettons, mais moi, ce qu'ils représentent, je suis comme « Ah, ben, ils se lèvent tôt, ils travaillent fort, ils font plein d'affaires. Fait que moi, c'est de ça que je me nourris. Fait que quand quelqu'un... Autant au début, des fois, j'étais gêné de faire ça. Tu vois, je travaillais dans le champ l'autre fois, puis en tout cas, j'avais bien travaillé de la manière que j'avais placé mes affaires. On ramassait les géotextiles, fait qu'on avait, recouvert les vignes pendant l'hiver. Tu recouvres les vignes d'un géotextile pour garder la chaleur un peu plus élevée sous la géotextile, mm-hmm. pour protéger la vigne. Fait qu'on est une ligne de gars, t'sais, on est tout éparpillés dans rangées pour être loin, t'sais, les uns des autres. Puis au bout, il y a le tracteur qui tire. Fait qu'il faut comme relever le géotextile par-dessus les poteaux. On couche imagine un long, long drap. Puis là, ben, on l'attache à un tracteur qui roule, puis là, il tire. T'sais. Puis là, ben, j'avais du temps entre chaque rangée. Fait que j'ai fait, OK, ben, je fais 10 burpees par rangée.
Le gars travaille dans un champ, c'est pas assez exigeant pour lui. Oublie ça, man. Ça en prend plus.
Oublie ça.
Puis de voir mon ami arriver à la fin de la journée faire. Hey, t'es un esti de malade, toi, Carlis. Combien de burpees t'as fait? Je suis comme 260.
Fuck, man.
Puis, mais de. C'était rendu que. On dirait que quand quelqu'un. Puis pendant la tournée, c'était ça aussi. Pendant que je faisais des shows d'un bar, c'était ça. L'espèce de sentiment où t'es comme. Puis moi, je sais que je suis trigger comme ça. Faut que j'en fasse un peu plus pour être bon. Je le sais. Je suis comme, j'ai un certain talent dans ce que je fais, mais faut que je travaille fort, faut que j'en fasse plus, faut que je pousse ma machine, faut que je sois discipliné. C'est comme ça que je suis bon, tu sais. Puis qui fait en sorte qu'à cette heure, on dirait que j'accepte le fait que... Puis j'aime que les gens fassent « Hey, t'es bien intense, t'es fou un peu. » Faire. Quand on me dit ça, on dirait que maintenant, je fais « Ah, je pense que je suis en train de faire la bonne affaire. » Tu sais. Puis, mais en même temps, j'écoutais Rogan dire, puis j'étais d'accord, il est comme « Faut que tu trouves l'équilibre entre la discipline puis l'enthousiasme.
Ouais. »
Donc, des fois, t'es peut-être mieux de t'entraîner 5 jours semaine plutôt que 7 jours semaine pour que les 5 fois que tu y vas, t'es content. tu t'amuses. Ouais. Puis tout le monde est à son rythme, tu sais. Fait que je pense que c'était un plan que je voyais. J'avais une vision de OK, tu sais, ben là, je vais faire OD, je reviens, je finis ma tournée, je fais le Centre Bell, on rase les cheveux, puis on déplugue tout. Puis je m'en vais absorber ce qui s'est passé. Parce que l'été passé, je trouve que je n'ai trop fait. Puis j'aimais pas ça, tu sais. Puis sur le coup, c'était un peu terrifiant. Tu fais attends, là, genre, techniquement, j'étais un peu dans un genre de pic.
Mm-hmm.
Puis après le Centre Bell, au lieu de sauter dans n'importe quoi, j'ai fait non, je vais au contraire prendre un step back.
Ouais.
Puis justement, me poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est. Tu sais, fait que c'était un genre de plan. Puis à un moment donné aussi, c'est que je me connais, c'est que je suis dans les extrêmes. J'ai trop, un peu trop travaillé dans les dernières années. Fait que je me suis dit, ben, je serais pas capable de faire juste comme ah, OK, ben là, je vais travailler 5 jours par semaine. Je prends 2 journées off. Non, là, prends 3 mois.
Ouais, ouais, ouais.
Puis après ça, équilibre. Tu sais, vas-y dans l'autre extrême. Dois rien à personne. Puis ça m'a travaillé des affaires. Quand le COVID est arrivé, puis tous mes amis humoristes faisaient des lives, à un moment donné, j'étais agité, ah, je suis supposé être en train de faire quelque chose. Puis j'ai eu le sentiment de devoir faire quelque chose. Puis à un moment donné, j'étais comme, non, jusqu'au mois de mai. T'avais dit jusqu'au mois de mai, tu faisais rien. Fais rien. Essaye de rien faire.
Mm-hmm.
Pense, écoute. Tu sais, ta gueule, arrête de faire du bruit, puis écoute. T'sais, fait que. Mais c'est comme un ongoing combat ou réflexion avec moi-même. Je me trouve des fois bien mêlé, des fois c'est bien clair ce que je m'en vais faire. T'sais, là, évidemment, la COVID fait en sorte que
il n'y a rien de clair pour personne.
Il n'y a rien de clair pour personne. Mais tu vois, mettons, venir ici à matin, je suis comme ah oui, OK, mais là, c'est peut-être ça, là. T'sais, juste, on recommence à faire des affaires. Ouais.
C'est drôle. Moi aussi, ça me fait. En ce moment, ce qu'on vit là, ça me fait exactement ça.
C'est comme un premier step vers revenir vers une vie qui est plus normale. Ouais. Là,
J'ai une théorie qui m'est apparue pendant que tu parlais, puis je veux vous la bander. Moi, toute ma vie, je me suis rendu... Je me donnais des obligations envers moi-même, puis surtout dans le sport, parce que ça l'a occupé vraiment une grande partie de ma vie. Là. Où est-ce que je me disais... Mettons, je vais prendre ma dernière année de natation, où est-ce que je me disais à moi... mais aussi haut et fort à qui voulait bien l'entendre, je vais gagner les championnats canadiens universitaires. Je ne sais pas à quelle épreuve, mais je vais gagner une des épreuves.
Mm-hmm.
Puis à chaque fois que... Puis j'ai pris ça de dire « j'ai loué le Centre Bell ».
Ouais.
Fait que tout le monde savait que tu as loué le Centre Bell. Fait que si tu ne te rends pas à être capable de vendre 10 000 billets, je veux dire, tu as l'air fou parce que tu as loué le Centre Bell, tu sais. Fait que là, moi, je disais à tout le monde, tout le temps, tu sais... J'allais au gym, je disais au monde, quand j'étais en train de bencher puis je battais mon record de bench, je disais, ça, c'est comme ça que tu gagnes les championnats canadiens universitaires, tu sais. Puis à chaque fois où est-ce que... Puis ça, j'en témoignais aux gens, mais la personne qui était le plus... qui se mettait le plus qu'à risque, c'était moi envers moi. Parce que si moi, je réussissais pas à faire ça, après me l'avoir dit puis après l'avoir concrétisé en le disant aux autres, c'est moi que j'allais décevoir. Fait qu'à chaque fois que j'étais chez nous puis que je me disais « Oh man, à matin, je suis défoncé. Ça me tente pas de me lever puis d'aller m'entraîner ou ça me tente pas de faire le step de plus. Ça me tente pas d'arriver dans la piscine puis à la place de juste faire l'entraînement comme le coach le dit, de me donner à 110%. Ça me tente pas de me mettre dans la zone rouge. Ça me tente pas de tout ça. » Mais je me disais « Chris, man, tout le monde ici est au courant que tu veux gagner les championnats canadiens universitaires. Puis, si tu les gagnes pas, tu vas avoir mené tout ce monde-là, y compris toi, en bateau. » Fait qu'en te rendant accountable à un objectif, t'as comme pas le choix parce que je suis quelqu'un qui est fier, j'ai une grande fierté, puis j'accepterais pas de juste échouer sur une promesse que j'ai faite, tu sais. Fait que là, je me rends comme moi responsable de mes propres actions. Puis en faisant ça, ça fait comme guider un petit peu ma direction. Puis c'est facile à illustrer dans le sport.
Ouais.
Parce qu'admettons que je dis « Hey, je veux me qualifier pour le marathon de Boston puis que je dis ça à tout le monde, ben c'est facile à quantifier. Tu sais, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour te qualifier? » Maintenant, comment tu fais pour mettre ça dans ta vie?
Mm-hmm.
Ouais.
Comment tu mets des landmarks, des objectifs au loin dans ta vie qui te permettent de te lever le matin, de le dire à tout le monde, puis d'y aller, tu sais, le Centre Bell, professionnellement, c'est un bon point, tu sais.
Ouais, mais tu vois, après ça, le plus, c'est ce que tu viens de dire. moi, je suis rendu à un point où des fois aussi, je veux juste me trick moi-même. C'est-à-dire que, mettons, pour moi, m'entraîner, c'est rendu quelque chose de... C'est un besoin.
Ouais.
C'est pas difficile d'aller au gym. Mm-hmm. J'aime ça. Ça me fait du bien. Ça me rend heureux. Ça me calme.
Ça prend un certain temps pour se rendre là.
Oui, oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis j'ai la chance d'être rendu là. Mm-hmm. En même temps, j'ai la chance. Je suis allé.
Tu t'es rendu là toi-même.
Oui, exact. Et là, ce qui est difficile, je trouve, pour moi, et ça fait partie de mon métier, c'est écrire. Faut que j'écrive des jobs, faut que j'écrive des affaires. Et j'haïs dire des affaires et pas le faire. Mm-hmm. J'aime pas ça. Fait que là, j'ai trick mon mind en me disant, OK, ben à partir de telle date, 4 fois par semaine, choisis ta journée. Faut que t'écrives le temps que tu veux. Comme le temps que t'écris, c'est le temps que t'as dans le gym. Mm-hmm. Fait que si j'écris 15 minutes, ben j'ai juste 15 minutes dans le gym, mettons. Mais si je veux m'entraîner 1h30, faut que j'écrive 1h30.
Ouais.
Fait que je me trick moi-même à ce petit jeu-là, mais qui a fait en sorte que, ben, je me mets un timer, je mets mon téléphone dans l'autre pièce, je fais, ben, je veux écrire 1h30.
Mm-hmm.
Go. Puis demain, je pars. Puis demain, j'ai rien à dire ou j'ai rien à écrire. Puis là, c'est comme, OK, ben, retourne, check tes notes. Ah, il y a telle affaire. Puis là, mais je repars. Puis là, mais ce qui est tough, c'est de partir la machine, c'est de créer l'habitude, tu sais. Mais c'est fou comment, tu sais, on est juste notre propre ennemi. Puis tout le monde n'est pas fait de la même manière. Fait que, tu sais, c'est chacun nos trucs, tu sais. Mais c'est de trouver ce qui te trigger toi, ce qui te motive toi, qu'est-ce qui te met toi dans la zone, qu'est-ce qui est important pour toi, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes objectifs clairs, des objectifs réalisables, tu sais. Ouais. Fait que.
Il y a quelque chose qui. Je te recommande une lecture, puis la prochaine fois qu'on se verra, je te l'amènerai parce que je l'ai chez nous. Un auteur japonais qui s'appelle Haruki Murakami, c'est plusieurs fois considéré pour le prix Nobel de la littérature, là, mais il n'est pas assez vieux et assez en fin de carrière pour l'emporter. Mais il a écrit un livre qui s'appelle, c'est un essai, ça s'appelle « Autoportrait de l'auteur en coureur de fond ». Puis il compare son entraînement pour un marathon. Il a couru 3h30 au marathon, ce qui est tout à fait average, mais il partait de rien. Tu sais. Puis il compare sa technique d'écriture avec son entraînement pour le marathon. Puis il dit, à chaque jour, je m'entraînais 2 heures pour atteindre mon objectif de marathon. Puis il dit, à un moment donné, j'ai réalisé que quand j'avais un projet d'écriture, fallait que je me dise, tu passes 2 heures devant ton bureau d'écriture avec aucune autre distraction. Puis il dit, des fois, c'était 2 heures devant une page blanche. Des fois, c'était 2 heures où est-ce qu'il n'y a rien qui se passait. J'écrivais rien. J'écrivais une phrase, c'était de la grosse merde, mais je restais 2 heures à me dire qu'est-ce que j'écris, puis à travailler là-dessus. Puis à chaque matin, il se levait avec son cadran, il s'assisait, puis il faisait son 2 heures d'écriture à tous les matins, peu importe qu'est-ce qui était créativement. Mm-hmm. Puis il comparait, c'est ça, dans l'essai, il compare ces deux choses-là. Puis comme de fait, Murakami, il écrit du long en crisse, là. Il a écrit des sagas épiques là, de 3 romans épais de même. Tu sais, c'est vraiment... Il écrit en crisse, là. Sauf que c'est ça. Lui, il dit, c'est l'activité mentale, faut que tu la
ouais.
contraignes.
L'accordes, ouais.
Faut que tu l'accordes, sinon c'est tout. Tu sais.
Et oui, man. Puis, en fait, on en parlait juste avant de re-rentrer en onde, tu sais, du pouvoir de la routine, tu sais, ouais. Qui est toute... Tout ce que tu vas accomplir, c'est une accumulation de petites actions à chaque jour. Là. C'est pas en une journée que tu vas réinventer le monde ou que tu vas faire n'importe quoi de grand. Fait que c'est d'en faire un petit peu, puis pour ça, ça prend la discipline, puis ça prend surtout la routine. T'sais. L'autre jour, je checkais, c'était comme une page, puis que selon les écrits de certaines personnes historiques connues, c'était quoi leur journée type. Là,
ouais.
Là je checkais, mettons, genre Beethoven, le compositeur, puis là, c'était, OK, lui, mettons, il se levait à 5h30 tous les matins. Il comptait ses grains de café. Il comptait 14 grains de café. Il faisait un café avec ça. C'est tout le temps le même nombre parce qu'il voulait pas, mettons, en prendre un de plus. À un moment donné, finir qu'il buvait genre trop de caféine. Ouais. Fait que c'est toujours ses 14 grains de café. Il faisait son café.
Juste avec cette information-là, ouais. Genre, on sait no shit que c'est Beethoven.
Ouais,
comme
ben oui, c'est ça. Exact.
De la précision, exact. De la discipline.
Exact.
Mais tu vois, encore une fois, tu me dis ça, mon réflexe, c'est de faire « Voyons, il est bien intense. Ouais. » Ben Chris, c'est Beethoven, tabarnak. Tu veux-tu être Beethoven ou non?
C'est sûr qu'il est intense.
Ben oui.
Ouais, c'est une bonne question. Puis, mettons que t'as le choix d'être Beethoven ou non, t'es-tu Beethoven? Ben, probablement que je suis Beethoven. Tu me donnes le choix. Ouais.
Puis après ça, il compose. Là, tout de suite, il se met à la tâche la plus importante de sa vie, là, t'sais, qui est composée. Puis je pense qu'il était mieux de mettre ça le matin,
ben oui,
quand
c'est
tu te lèves.
C'est toujours bon de mettre la priorité numéro un le matin. Man.
C'est là que t'es réveillé, c'est là que t'es on, c'est là que toute ton énergie mentale est à son maximum. Puis il composait jusqu'à comme 2-3 heures de l'après-midi. Puis quand il était comme buzzé, il allait prendre une marche de 5-10 minutes, il revenait, il continuait de composer. Fait qu'il il renait juste son café, tu sais. Puis là, vers 2 heures, il se faisait un gros dîner. Après ça, il allait prendre une longue marche, il arrêtait dans un pub, il se prenait une bière, il lisait le journal, il rentrait chez eux, il se faisait souper. Genre, il lisait encore, il chillait, puis il se couchait. Fait que tu sais, il travaillait de genre 6 à 2 le matin, ce qui était quand même une bonne journée finalement. Mais il avait quand même le temps chaque jour de prendre sa petite pinte, de lire son journal. Puis, tu sais, la discipline, mais aussi d'intégrer dans ta discipline des moments pour chiller, on dirait que c'est comme l'équilibre parfait. Là,
ouais, exact, exact. Mm. Est-ce que t'as-tu vu celle de Hunter S. Thompson? Non. Sa routine quotidienne.
Ah oui, tu m'avais déjà envoyé ça.
Hunter S. Thompson, c'est l'auteur sur qui j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Puis c'est lui qui a écrit Fear and Loathing in Las Vegas. T'sais, ils ont fait un film avec Johnny Depp puis Woody Harrelson sur ça. Là. Puis lui, c'était un esti de malade. Là, t'sais, puis comme sa routine quotidienne, c'est genre, faudrait que je la retrouve. Là. Je peux essayer de la chercher parce que ça vaut vraiment la peine de lire ça. Là.
Trouve-la.
Il y avait celle de Mark Wahlberg qui était sortie récemment. Puis c'était ça. Là, c'était genre, il se réveillait à... Écoute, je pense que c'était 2h30. Tu sais, comme ça, n'était parodique. C'est comme, attends, quoi? 2h30, là, tu sais. Ouais, 2h30, tu sais, il s'entraînait, tu sais, mettons, cardio, pray time. Après ça, deuxième training, déjeuner, il allait porter ses filles, family time, meeting, nanana. Mais il se couche à 7h30 le soir.
Ouais, t'sais.
C'est ça. Fait, mais, je l'ai ici, OK? 3h p.m. Fait que là, t'es à 15h, là. 3h p.m. 3h p.m., se réveille. 3h05, Chivas Regal, j'imagine c'est un verre d'alcool. J'imagine c'est un alcool, je sais pas c'est quoi. Avec le journal, puis une Dunhill, fait qu'une clope. 3h45, cocaine. 3h50, another glass of Chivas avec une autre cigarette Dunhill. 4h05, première tasse de café avec une cigarette. 4h15, cocaine. 4h16, une minute après la cocaine, jus d'orange, Dunhill. Fait qu'une cigarette avec un jus d'orange. 4h30, cocaine. 4h54, cocaine. 5h05, cocaine. 5h11, café, cigarette. 5h30, plus de glace dans son Chivas. 5h45, cocaine, etc., etc. 6h, grass to take the edge of the day. Il est rendu à 6h p.m. Après ça, il s'en va à taverne pour son lunch avec 2 Heineken's, 2 margaritas, un taco avec une salade de choux. Puis là, ça continue de même. 10h, drop acid, cocaine, chartreuse, cocaine, grass. Après ça, ça s'en va jusqu'à 6h le lendemain matin. The hot tub champagne, fait qu'il prend du champagne dans un spa. Des fettuccine Alfredo. 8h20, il se couche.
Il a pas écrit
8h20 le lendemain matin. Non, il a pas écrit là-dedans. Ah ouais, tu sais, midnight, OK? Fait qu'il s'est levé à 3h, il a fait tout ça. À minuit, Hunter S. Thompson is ready to write.
L'histoire ne dit pas s'il a écrit.
Après ça, midi 5 à 6h AM, il fait de la chartreuse, cocaine, grass, Chivas, café, Heineken, des cigarettes, des Dunhill en écrivant. Continuous pornographic movies the background.
Mais regarde, ça, au moins, on a l'horaire, puis il était discipliné.
C'est dur de faire ça.
C'est dur. Il y avait 22 alarmes dans la maison, une pour la cocaine, une pour le grass, une pour les clubs. Ding, c'est l'heure. Ouais. À un moment donné, regarde, il est 8h20, c'est le temps des fettuccine Alfredo. Sont où? Hein? S'il vous plaît, la discipline.
Il a construit un personnage qui était vraiment plus grand que nature. Là. C'est fou ce qu'il a réussi à faire, Hunter S. Thompson.
Mais ce qui est fou, mettons, là, c'est que c'est là, j'écoutais... Je checkais, il y a un film qui va bientôt sortir avec Pete Davidson, réalisé par John Apatow, The King of Staten Island. Ouais. Puis ils ont fait un autre film. C'est pas Judd Apatow qui réalise, mais Pete Davidson a fait un autre film qui est disponible sur Hulu, que j'ai pas vu, là, mais qui s'appelle Big Time Adolescence, avec son ami Machine Gun Kelly, le ouais. chanteur. Là, j'oublie son nom d'acteur, là, qui joue dans...
Je pense que c'est Machine Gun, son nom sur son certificat de naissance.
Puis tu vois, il comptait une journée de tournage où les deux sont là, tu sais. Puis
Davidson, c'est un pothead, là.
Big time. Ouais. Big time. Il a la maladie de Crohn. Puis, fait que, t'sais, ça se veut du pot médicinal, mais t'sais, il en fait des bonnes jokes, lui aussi, là. Il est comme, yeah, whatever, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, et Machine Gun Kelly, finalement, il vient les rejoindre pour le tournage. Puis, genre, ils finissent, mettons qu'ils finissent à 5h30 le soir de tournée. Puis, genre, Davidson, il vient les rejoindre. Ils prennent du moche. Comme il est 6h le soir, là, j'ai jamais fait de moche, mais je pense que ça va t'amener à tort. Là,
ah ouais, ça t'amène loin. Mais...
Et là, après ça, pendant le tour, là, ils font « OK, on va aller tourner un vidéoclip pour Machine Gun Kelly. » Fait qu'il appelle son réalisateur. « Viens-t'en, on est à telle place. On a acheté des chars. » Ils ont acheté des chars. Puis là, tu sais, vraiment, des ados qui ont de l'argent ouais. et du succès. Mais en plus, ça marche, leur affaire. C'est ouais. ça qui est fucked up. Tourne le truc, se couche à 4h du matin, se lève pour tourner. Puis sur l'heure du dîner, ils finissent le vidéoclip. Mais ils sont encore buzzés. Puis je regardais ça, puis j'étais comme... Il y a une partie de moi qui aimerait ça, être capable d'avoir un peu de se laisser aller là.
Mm-hmm.
Je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout. Je suis super... Si j'ai un truc à faire, je suis comme, ah non, dans deux jours. Tu sais, ça m'est arrivé de dire, dans 4 jours, j'étais à faire, mes amis sont, mais ta gueule, tu peux venir prendre une bière à soir, là, ça va, là, tu sais. Mais après ça, par exemple, c'est que une fois rendu dans le bar, c'est sûr, je le close. C'est ça l'affaire
ouais,
aussi, tu sais.
Ouais.
C'est vraiment.
Mais c'est tu sais, je veux dire, c'est faut que tu sois un talent démesuré pour pull it off. Ce genre de choses-là.
Ouais,
parce que, je veux dire, 99,9% des gens qui agissent comme ces deux gars-là se rendent nulle part et sont dans le sous-sol chez leur mère. Là.
Exact.
Ouais. Mais il y a quand même une vertu à maner aussi juste agir sur ton instinct.
Ouais, tout à fait.
Plutôt que de surintellectualiser, penser, analyser les affaires.
Ouais.
Il y a de quoi de genre... Okay, lui, ces gars-là, man, ils font là, go, on fait ça, that's it. Puis tu sais, le lendemain, ça sort. Probablement que le clip, je sais pas s'il est sorti, mais tu sais.
Oui, il est sorti le clip, c'est El Loco, je pense.
Ok. Tu sais, c'est ça, c'est comme go, on fait de quoi là, tu sais, on pense pas trop. Puis il y a
quoi de nice à temps, pareil. Un short ici, film à chaque fois que tu fais quelque chose.
T'es pas obligé de passer pendant 6 mois, puis tu sais, que chaque détail soit. Parce que des fois, quand tu fais ça, le pire, c'est que le résultat.
Il est moins bon.
Il est même pas meilleur que quand tu fais de quoi qui vient des. Des
mais c'est là où je pense que ça dépend de la personnalité.
Ah ouais.
Mettons, avec moi, j'aimerais ça de même. La vérité, je suis pas faite comme ça. Ouais. Mm-hmm. Moi, je culpabilise à rien. La culpabilité, c'est ça qui me coule dans les veines, mon gars. Je travaille à sortir ça de mon corps. Mais moi, mettons, je suis comme, ah non, c'est ça, tu vois, moi, faut que je sois un peu discipliné, faut que je fasse attention. Après ça, ça veut pas dire que je suis vraiment plus lousse que ben du monde. Ah, là, ouais. Mais... Après ça, ben pour eux, ça fonctionne. Pour eux, c'est la manière de faire. T'sais. Puis après ça, ça dépend de plein d'affaires. Je pense que c'est juste une affaire de personnalité. Puis, comme, je regardais ça, puis il y a une partie de moi qui était comme, ah, j'aimerais ça être un peu plus comme eux. Puis en même temps, je fais, ah, non, là, c'est juste son autre chose que moi. Souvent, je vais admirer des gens qui sont très loin de. Ou du moins, en tout cas.
Ouais.
Puis Davidson, je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis pourtant, son special, je ne l'ai pas trouvé très bon. Je le trouve pas tant à son affaire, pis ça, mais il y a de quoi de fucking real chez lui.
Il y a quoi de raw en crise dans sa personnalité, exact. Dans la façon qu'il est sur scène.
Tu sais, des Seth Rogen, des gars de même, c'est justement des gars, tu te dis, c'est juste c'est des chilleux, pis ça marche.
Des chilleux professionnels.
Ça marche à fond.
Mais Rogen, t'sais. Ça travaille. T'sais, Seth Rogen, là, man, j'ai écouté son entrevue à Off Camera with Sam Jones. Puis. Tu sais, man, c'est un gars qui travaille. Lui puis Evan, tu sais, son partner, qui écrit. Ils écrivent des films, man, puis ils produisent des trucs. Puis ça, c'est ça qui est fucked up, c'est qu'ils ont trouvé l'équilibre, c'est qu'ils ont créé leur job.
Ouais. C'est ça l'affaire.
Ils ont créé leur affaire à eux autres. Puis c'est ça qu'il expliquait dans l'entrevue, c'est que lui, ils ont fait Superbad. Tu sais, Superbad, ils ont commencé à l'écrire à 12-13 ans, là.
Ah ouais.
Ils ont commencé à écrire ça quand il était...
Son partner, c'est-tu le gars qui joue avec lui dans Super
non.
Bad? Non, okay.
Non, c'est son partner, il joue pas, si je me trompe pas. Là, je m'avance un peu, là, mais Evan, je pense qu'il a réalisé un peu, mais on le voit pas. Puis, non, dans Superbad...
L'autre policier, c'est qui?
C'est là? Bill Hader. Ouais, Bill...
En tout cas, peu importe. Les
c'est Bill Hader, oui. J'avais Bill Maher en tête, mais c'est un autre doute. Bill Hader, qui est drôle en Christ, puis qui est une machine.
Un ancien SNL.
Ouais. Puis qui est un gars qui était, genre, assistant de prod, là. Lui, il travaillait en arrière de la caméra, là. Puis tout le long qu'il était à SNL, il a été super nerveux, super anxieux. Comme, ça a pris 2 ans, je pense, puis à un moment donné, c'est Lorne Michaels, le producteur, qui est canadien, by the way, qui a dit, tu sais que tu peux travailler ici aussi longtemps que tu veux, comme calme tes nerfs, genre.
T'es correct.
T'es fucking bon, genre, arrête. Ouais. Mais au départ, quand Evan puis Seth Rogen sont mis à écrire Superbad, dans leur tête, parce que c'est ça le nom des deux personnages, qui sont joués par finalement Jonah Hill puis Michael Cera. Mm-hmm. Mais bref, fait que c'est des gars qui écrivent, c'est des gars qui travaillent. T'sais. Ils ont écrit Superbad, ils ont écrit Pineapple Express, ils ont fait avec les deux hits. Puis là, ils racontent que quand ils ont écrit leur troisième film, que j'oublie, là, soudainement, ils étaient rendus les stars du studio.
Mm-hmm.
Le studio, ils ont callé un meeting un matin pour donner des notes sur le scénario. Puis Seth Rogen est comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi qui se passe? Je comprends pas. Puis on vous donne des notes. Il est comme, dude, on vient de faire deux hits sans avoir votre input. Vous pensez vrai, comme... Fait que c'est un gars, ce que je trouve cool de ça, c'est que aussi, c'est sans compromis ce qu'ils font. Ouais. C'est comme, hey, non, nous, c'est ça qu'on fait. Mm-hmm. Laisse-nous faire ça. On a une idée, on va aller au bout de cette idée-là. Puis on va voir si c'est bon ou non, mais au moins, on va aller au bout de cette affaire-là.
Mm-hmm.
Fucking intéressant.
Mais c'est ça, des fois, tu te demandes des personnalités comme ça. Puis je pense, surtout en musique, là, tu te dis, il y a vraiment un branding, puis cette image, des fois-là, de laisser aller, de drogue, de whatever. Tu sais, c'est rare que tu vois vraiment des artistes là, dans l'action d'écrire une toune ou d'enregistrer, d'être en studio. Puis c'est ça leur vie, là, la plupart du temps. Là,
oui, c'est ça.
Fait qu'il y a vraiment des fois une sorte de construction parce qu'on aime ça. On aime ça relate probablement, puis on aime ça, je sais pas.
Il y a quelque chose de romantique. Il y a quelque chose de comme, ah, tu sais, de savoir que les Stones étaient, tu sais, pétérés. Il y a quelque chose de comme, ah, man, c'est des rock stars. Ils ont une vie qui a rien à voir avec la nôtre. Mais après ça, à un moment donné, t'es comme... Il y a quelque chose de... On aime comme les deux extrêmes.
Ouais.
Tu sais, on parle des dudes qui sont levés à 2h du matin puis à 3h l'après-midi. On parle pas de celui qui se lève à 8h15, tu sais.
C'est moi, ça. C'est vrai, non, mais c'est 8h15.
Non, mais tu comprends? Il y a cette espèce d'affaire-là de l'over-discipliné et pas du tout discipliné, tu sais. Puis je pense aussi que les artistes sont beaucoup dans les extrêmes, tu sais. Mais je sais pas, il y a quelque chose là-dedans où après ça, c'est tant que t'es true to yourself, t'sais, tant que tu fais ton affaire à toi. T'sais.
Je pense que c'est de trouver ton... Quand t'es une personne créative, puis là, je veux dire, je dis ça sans prétention, pas que j'en suis une particulièrement, là, mais quand t'es un créatif, faut que tu trouves ta façon d'être le plus créatif possible en étant malgré tout efficace parce que à moins, je veux dire, tu sais, des Jean Leloup, il y en a un, tu sais, qui peut être juste créatif, puis qu'il est tellement talentueux qu'il y a du monde autour de lui qui vont faire genre, OK, prends ce génie-là, puis mets-le dans un pot, puis on va s'occuper du pot, là, tu sais. C'est comme, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça, tu sais. Fait qu'il faut quand même que tu sois, tu sais, capable de fonctionner pour utiliser cette créativité-là, puis la mettre sur quelque chose.
Ouais, ben puis aussi, c'est que je pense que les gens le loup de ce monde, là, mettons, là, c'est que s'ils arrivent en retard, quand ils rentrent dans pièce, ils s'excusent pas.
Non, c'est ça, c'est ça.
Alors que moi, lui, il va arriver 3 heures en retard, puis il y a quelque chose de comme... Ah, c'est Jean Leloup. Il y a quelque chose de comme... Je te dis pas que c'est la bonne affaire à faire, mais mettons, ça, c'est comme su, là, tu sais.
Ouais.
Moi, j'arrive 5 minutes en retard, puis je rentre, puis je m'excuse tout le monde, puis là, qui fait en sorte que ça fait plus chier, moi, qui reviens en retard. Les gens vont comme, dude, fucking arrive à l'heure, mm-hmm, tabarnak. Mm-hmm. Je sais pas, il y a comme...
Ben, c'est parce que je pense, tu sais, quand on parle de... juste de raw génie, là, sans dire que t'as pas du génie,
ben
que t'appartiens
à Jay. Mais tu sais, il y a pas de stress avec ça, mon
sans,
gars.
Si on parle de raw génie, en tant que société, faut qu'on se plie.
Kanye West est un autre bon exemple. Ouais. Tu sais, si Kanye West était average, ça ferait longtemps que le monde aurait fait, tu sais, avec Kanye, là, genre, tes opinions politiques, tes idées, tes crises, votant, là, tu sais. Mais c'est que là, c'est comme, OK, non, des gars comme ça, on a trop de doigts à ses mains pour les compter, là, tu sais. Fait que c'est comme, acceptons ce raw génie-là comme il est, tel qu'il est, pour essayer d'en tirer le maximum en tant que société. Là,
j'ai lu son entrevue dans le GQ. T'as-tu lu?
Non.
Non.
Moi, je vais t'avouer que j'ai commencé... Après My Next Guest Needs No Introduction,
ouais,
sur Netflix, parce que c'était Kanye. Après cette entrevue-là, j'ai fait, OK, non, je vais... me concentrer sur la musique, puis je vais laisser de côté à 100% la personne, parce qu'il y avait trop d'affaires que je trouvais problématiques dans son argumentaire. Il y avait trop de trucs que je trouvais qui faisaient aucun sens. Fait que j'ai dit, je vais vraiment me concentrer sur sa musique.
Moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que là, c'était à l'écrit.
Ouais.
C'était moins agressant.
Ouais.
Parce que je suis d'accord avec toi sur un truc. Moi, Kanye, je l'adore.
C'était
là,
décevant, t'sais. Cette entrevue.
Ouais, absolument. Là, en fait, j'ai aimé, je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, mais j'ai vraiment aimé la fin, la partie où Letterman...
Quand tu le vois dans son endroit créatif.
Exact.
Là.
Ouais. Exact. Puis ce que je trouve fascinant, c'est qu'il est en train de travailler sur des modèles de maison.
Ouais.
Comme il y a pas plus de think outside the box que lui. Comme il est rendu à une autre place où il repense comment on crée nos environnements.
Mm-hmm.
Et comme on est dans des boîtes, pourquoi on crée des boîtes? Pourquoi tout est carré? Pourquoi tout... Il faut que ça flotte, il faut que les énergies bougent. Comme... Puis j'étais comme, holy shit, comme il repense tout, tu sais. Mm-hmm. Fait que,
mais je remets pas en question que, mettons, des personnes comme ça, il va avoir des misses. Il va y avoir des misses, là. T'sais, Kanye, il y a eu certains misses musicales, là, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu tant que ça.
Mais tu vois, le pire, c'est que j'ai réécouté, je suis retombé dans Kid See Ghost, son projet avec Kid Cudi
en 2018. C'est débile, ça.
Ce qui est fucked up, c'est que c'est le genre de projet où souvent, c'est des projets... Parce que moi, j'ai trouvé que la première écoute est rude.
Ouais.
La première écoute est comme... Oh,
mais, non, mais même moi, je me rappelle la première fois que j'ai écouté ça, puis quand Kanye embarque avec les rats, je me rappelle m'être dit... Oh, il y a quelque chose là. J'ai pas fait comme what the fuck, j'ai fait tabarnak, c'est hot.
C'est ça, mais ouais, mais cet album-là, c'est fucking expérimental. Man.
C'est bon, man.
C'est du grand génie.
Mais tu vois, moi, il y a quelques albums comme ça que j'ai fait. Ah, je l'ai pogné un peu en retard. Pas en retard, mais dans le sens, je sais que je l'aime, mais là, on dirait que tu vois, Jesus is King, quand il est sorti, j'étais comme OK, tu sais. Puis là, je suis comme ah non, je.
C'est du Christian rap qui rock en Chris, là.
Je l'adore.
J'ai adoré ça. Mais tu vois, pour dire que, tu sais, des gens comme ça, ils vont avoir certains misses des fois, tu sais. Puis sauf que j'ai pas de doute que tu sais, il va arriver avec quelque chose qui est. Puis il dit, ça, c'est une des affaires dans l'entrevue avec Letterman qui dit, qui m'est resté, que j'ai trouvé fucking pertinent, c'est qu'il dit. You want crazy sounds, you want crazy music, you want crazy everything. Maybe it comes from somebody that's crazy.
Big time.
Puis quand il dit ça, puis tu sais, il dit en s'auto-critiquant, puis en même temps, tu fais, c'est vrai. Puis ça, je pense que je l'ai déjà dit sur un des podcasts qu'on a fait, c'est pour être capable de créer une œuvre d'art qui montre la vie différemment, faut que tu vois la vie différemment.
Ah ouais.
Faut que quand tu écoutes une toune, il y a plein de monde qui sont des techniciens musicaux qui sont capables de créer une musique technique qui est excellente, là, tu sais. Mais pour être capable de vraiment faire quelque chose différent, d'innover, moi, j'ai la croyance profonde qu'il faut que tu sois capable de... qu'il faut pas que tu sois capable, mais qu'il faut que tu vois littéralement le monde d'une façon différente.
Mm-hmm.
Puis c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup d'artistes qui composent sous l'effet hallucinogène, parce que ça te fait voir le monde de façon différente. Maintenant, c'était Hemingway qui disait « Write drunk, edit sober ». Fait que tu sais, tu peux te sortir de la vision traditionnelle quand vient le temps de créer, mais après ça, quand vient le temps de retravailler tes shit, assure-toi de le faire comme du monde. Là. Mais moi, j'ai cette croyance-là que pour faire quelque chose qui est complètement différent, faut que tu vois le monde différemment, parce que sinon, tout ce que tu as, c'est des inputs qui existent déjà, qui sont ancrés dans le...
Mais il y a quand même une infinité d'inputs qui existent déjà.
Ah, non, mais c'est ça que je dis. Mais même quelqu'un qui voit pas le monde différent va être capable de faire quelque chose d'unique.
Parce qu'il y a aussi, tu sais, il y a aussi des fois le saying, l'originalité, des fois c'est juste un emprunt non détecté.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là. En 2020, ouais. On peut rien inventer. Là.
Dans le sens que, tu sais, je pense que oui, une des sources de génie ou d'innovation, c'est juste d'être une personne vraiment différente des autres, là, de ta manière d'être. Mais quand tu connais vraiment aussi, tu sais, mettons que tu n'as pas ce génie-là, tu peux contrebalancer par les connaissances, par la culture. T'sais. Mettons, si tu connais vraiment, vraiment bien la musique, tu sais, puis t'as une grosse variété d'influences, puis tu dis, OK, je vais mélanger ça, des trucs way off, là, tu sais, qui ont aucun rapport ensemble, puis je vais faire une nouvelle affaire avec ça. Ça va sonner fucking original.
Tu vas être capable de faire de quoi de fucking original, fucking bon, mais je pense malgré tout qu'il y aura pas l'espèce de petit. Tu sais, mettons, c'est le même principe, mettons, essaye d'imaginer. Je me suis posé la question, tu sais, en écrivant notre tome 2 du livre de recettes Vegan mais pas plate, en me disant, est-ce qu'en 2020, quelqu'un peut inventer une recette? Tu sais, inventer une recette, là, c'est une recette. Invente quelque chose. Tu sais, c'est comme prends une idée que personne n'a eue, jamais, puis fais-la jaillir. Tu sais, tu peux faire un twist sur une recette qui existe déjà, mais c'est comme. C'est genre comme inventer une crêpe, tu sais, comme c'est comme si la crêpe existait pas, puis que j'arrivais puis je vous disais, hey les gars, checkez la recette que j'ai inventée,
hey les
puis
gars,
là, vous autres vous êtes là genre
c'est sûr que chaque invention, une fois que la personne a inventé, hey les gars, c'est dans ma tête, chaque affaire qui a été inventée, tu traverses l'autre pièce. Hey les gars, faut que je montre de quoi. J'ai inventé un divan, mais c'est aussi un lit.
Oh, c'est ça.
Hey les gars, pour venir voir, là, ça vaut la peine.
Non, je vous le jure, les gars, là, mettons, tu mets ça dans ton salon, puis que t'as un invité, tu fais juste l'ouvrir. Genre, hey les gars. Mais tu sais, c'est comme inventer quelque chose. Mettons, c'est dur de comprendre ça, tu sais, quand.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a des inventeurs, là. Tu sais, qui sont capables d'imaginer quelque chose qui existe juste pas.
Puis qui va rester. Tu sais, je peux inventer une recette de dire, tu sais, une lasagne, mais au lieu des pâtes.
Non, mais c'est une lasagne.
Ouais, mais tu sais, mettons.
C'est une lasagne avec au lieu des pâtes, tu sais, tu comprends?
Je prends des pommes, du steak haché, puis je sais pas, une autre affaire par rapport, puis. Mais tu sais, ça restera pas, parce que ça va être la grosse dompe.
Mais tu fais quoi, mettons, un bouilli? Tu sais, c'est comme. Comment tu le fais qui existe pas? Tu sais, c'est comme. C'est d'inventer quelque chose. C'est fou d'inventer quelque chose, là, tu sais. Fait que,
je me suis senti comme ça. Mettons, si je prends ton idée puis l'appliquer à la télévision, j'ai écouté Euphoria sur Crave et je me suis senti comme ça. J'ai fait. Puis techniquement, c'est toujours l'idée de. Tu sais, en télé ou en cinéma ou en stand-up, peu importe, c'est un monde d'idées. Ça avoir une idée, tu sais. Et j'ai écouté Euphoria puis c'est quand même dark.
Ouais.
Mais j'étais là ecstatic. J'étais là tellement c'était créatif et sans compromis. Ils ont eu une idée puis ils ont été au bout de ça. Tout est beau, tout est nice, tout est pensé. C'est écœurant. C'est écœurant. J'ai capoté puis j'étais comme ah, faut juste avoir une bonne idée puis ne pas se faire influencer.
C'est la chose la plus dure, ça.
Oui, c'est la chose la plus difficile, mais après ça aussi, c'est qu'on est dans un monde où la première saison, là, où la première. Mettons, la différence entre le théâtre et le stand-up, là, c'est que un show de théâtre, la première, c'est la vraie première. Ouais. Fait que mettons que nous trois, toi et moi, on est des acteurs, puis toi, t'es le metteur en scène, puis là, ben, on fait tel texte, puis là, c'est comme, ah, notre vision, ce serait ça. OK, ouais, qu'est-ce qu'on veut dire? Telle affaire. Puis là, on travaille dans cette direction-là. OK, ouais, nous, c'est ça qu'on veut dire. OK, parfait. Fait qu'il n'y aura pas de décor. Ça, c'est une décision qu'on a prise parce que telle affaire. OK, ouais, on en parle. Blablabla. Puis là, on monte, on travaille pendant des semaines. Puis là, à un moment donné, c'est comme, OK, oui, hey, c'est ça. OK, on lock. Parfait, on le présente devant du monde maintenant. Voici notre proposition. Aimer, aimer pas, c'est ça le show. Qui fait en sorte que tu vas au bout d'une idée, mais c'est vraiment plus casse-gueule. Mais tu vas vraiment au bout d'une idée, tu vas vraiment au bout d'une proposition. Alors qu'en stand-up, moi, la réflexion, j'ai fait... Quand il a manqué de papier de toilette, là, au début de la COVID, là, la réflexion que j'ai eue, c'est que j'ai fait... Et c'est pas dans le jugement, c'est juste une réflexion. Je me suis dit, il y a probablement... une partie de ces gens-là qui sont venus voir mon spectacle. Parce que, probablement, une partie de ces gens-là ont écouté au dé. Et moi, je rode mes jokes devant un public. Je les teste, je les essaye. Je leur donne un pouvoir, tu sais, qui fait en sorte que je me suis dit, ah, faut quand même... faut pas trop que je leur donne ce pouvoir-là. Faut quand même que je trouve, moi, le moyen de dire qu'est-ce que moi, je veux dire, puis je vais m'arranger pour qu'ils rient exactement comme j'ai envie qu'ils rient, tu sais. Quand Chappelle a lâché le Chappelle Show, c'est parce que il trouvait que les gens riaient pas au même degré que lui, le faisait, tu sais. Mm-hmm. Puis il voulait pas continuer à faire ça, tu sais. Fait que... Puis Euphoria, j'ai trouvé que c'est ça, c'est que c'était comme, ils ont fait quelque chose, puis après, ils l'ont présenté, puis c'était comme, man, il n'y a eu aucune... Il n'y a personne qui a fait, ouais, non, ça, c'est vulgaire, ça, je suis pas sûr. C'est... Non, c'est ça qui fait que la vulgarité dans le show sert au propos. Qui fait que, c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'à cette heure, des fois, il y a trop d'interlocuteurs. C'est comme, non, man, vas-y au bout de ton idée, puis fais-la, va au bout, man, puis... Au moins, si tu auras essayé de quoi? Puis, chances César que tu vas lender bien plus qu'une idée qui est de plus en plus beige. Mm-hmm. Ça finit par être une proposition un peu plus poche, tu sais. Je sais pas,
ça m'a fait ça l'autre jour en écoutant Uncut Gems, là, le film
avec Sandler.
C'est dur à regarder, c'est désagréable. Le personnage, tu l'aimes pas être gosse, c'est confus, tout le monde parle en même temps, c'est bruyant. T'es là, ah, il me semble que tu te sens pas bien en écoutant ça. Ouais. Tu te sens stressé comme les personnages.
Mais visiblement, tout est réussi.
Ben, tout est réussi.
Parce que c'est pas juste le jeu, c'est le montage et la réalisation. Ouais. Parce que, Monet, comme toi, j'ai tout fait.
Ouais.
Asti, arrête, tabarnak. T'sais, comme, j'étais pas bien. Puis, je te jure, moi, j'étais comme, pourquoi j'écoute ça?
Ouais.
Après, c'est comme, ah, c'est exactement ça qu'il voulait.
C'est exactement le feeling qu'il voulait te faire ressentir. Puis tout le long, justement... T'es pas bien parce que aussi tu vois quelque chose de différent. Puis c'est comme je vois quelque chose de différent. C'est un inconfort de confronter à un feeling, une émotion, quelque chose que t'as jamais vu. Mm-hmm. Après ça, tu fais OK, j'ai vécu une expérience. Genre, j'en ressors. Je sais pas si t'en ressors grandi ou changé, quoi que ce soit, mais t'as vécu quelque chose, t'as vu quelque chose de nouveau.
Ah oh, oui, absolument. Amen. Absolument. J'ai adoré ça. J'ai checké plein d'affaires de même. T'sais, j'ai un affaire que j'ai trippé sur Crave. Je sais pas si vous êtes sur Crave, mais gros fan ici. Là, j'ai capoté. Puis là-dessus, il y a les Zen Diaries of Gary Shandling. C'est réalisé par Judd Apatow. Gary Shandling, c'est son mentor. C'est un humoriste qui a remplacé Johnny Carson au Tonight Show quand Carson prenait une semaine de vacances à la fin, surtout de sa carrière. Il a hosté les Grammys, les Emmys. Il y a eu 2 shows télé. Une hostie de machine. Puis justement, ce que tu parlais tantôt, l'idée d'inventer quelque chose, lui, mettons, il s'est fait offrir un talk show. Puis il était comme... Il était pas bien. C'est qu'il a utilisé sa carrière humoristique comme moyen d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire que dès que quelque chose devenait confortable, il changeait.
Mm-hmm.
Fait que lui, dans le fond, remplacé Johnny Carson... Pour lui, c'était inconfortable.
Ouais.
Mais c'était ça, c'est qu'il fallait qu'il rise to the occasion, tu sais. Mais après ça, quand il s'est fait offrir un late show, il était comme, ah, je peux pas faire ça tous les jours. Au fond, je vais stagner, tu sais.
Mm.
Fait que non, je vais aller faire autre chose. Puis c'était tout le temps ça, sa vie. Puis il faisait des choses que personne faisait. Tu sais, il méditait comme dans les années 70, quand personne méditait, quand personne parlait de ça. Mm-hmm. Il suivait des bouddhistes. Il y avait un journal. C'est extraordinaire. Là. C'est vraiment extraordinaire. Puis c'était comme un... Puis tu le vois, je trouve, à la fin de sa vie, il est décédé en 2016, puis tu le vois dans des entrevues, puis ça, dans des contextes. Puis les humoristes aussi, on aime l'attention, on aime faire rire. Fait qu'à un moment donné, il y a une émission qui s'appelle The Green Room, où il y a 6-7 humoristes entourés d'un public, puis ça dure 22 minutes. C'est juste des jokes, tu sais, puis ils répondent pas tant aux questions, tout ça. Puis Gary est comme laid back, puis non seulement il répond aux questions, mais en plus, c'est le plus drôle.
Mm.
Mais juste parce que il est calme, puis il sait ce qu'il est, puis il écoute, puis il essaye pas d'être drôle, il l'est, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a tout quelque chose aussi là-dedans, je pense que quand tu fais... T'sais, on parlait de nos personnalités, puis comment... Je pense que quand t'es en axe avec ce que t'es, c'est là que t'es le mieux placé pour créer exactement ce que t'es supposé créer. Parce qu'inventer quelque chose, c'est dur. Si tu t'assois, tu fais « Faut que j'invente quelque chose que personne n'a jamais fait », je pense que c'est pas le bon point de départ.
Ah, tu vas devenir fou.
T'sais, faut que tu fasses « Qu'est-ce que moi, je peux amener? » Qu'est-ce que moi... Parce que on est trois... ben les trois, on n'est pas ici pour la même affaire. Nos buts sont pas les mêmes. Nos instincts sont pas les mêmes. Fait que moi, il y a quelque chose beaucoup de... C'est pas... Le point de départ, c'est soi. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qui, moi, est important? Mm-hmm. Puis c'est là où, à un moment donné, après coup, tu vas faire « Ah, si, j'ai inventé de quoi? »
Ouais. C'est vraiment... c'est la question la plus difficile à répondre. Tu sais, de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ou de dire?
Mm-hmm.
Puis comment est-ce que je peux amener ça avec le moins de compromis possible? Parce que pour que ça reste le plus possible moi. Moi, un de mes fans, c'est Tom Morello, qui est le guitariste de anciennement Rage Against the Machine.
C'est un de tes fans?
Il est fan de toi.
Un de mes fans. il m'écrit, il me dit « PH, j'ai voté pour toi à OD. » Mais un gars de qui je suis un de mes héros, ouais, un d'une personne que j'admire le plus, c'est Tom Morello, ancien guitariste de Rage Against the Machine. Puis lui, il parle souvent, tu sais... dernièrement, surtout depuis que Chris Cornell est mort, dans le fond, avec qui il était dans Audioslave aussi après, il parle de son parcours en tant que musicien puis de comment Rage Against the Machine ont réussi à faire strictement ce qu'ils voulaient,
mm-hmm,
de A à Z. L'album, je me rappelle plus quoi le nom de l'album, celle avec Killing in the Name of,
ouais,
ils l'ont enregistré one take devant du public.
Wow.
Parce que eux autres se sont dit, le label disait non, vous pouvez pas mettre fuck you, I won't do what you tell me sur un album.
Ben justement.
Eux autres, ils ont fait, ah ouais, vous voulez pas, ben on va prendre notre album ailleurs, puis quelqu'un d'autre va le faire. Puis ils l'ont fait devant public. Tout le monde était comme, ben, le son va être de la merde. Ils ont dit, je m'en calisse, je vais pas crier fuck you, I won't do what you tell me dans un boot. Je vais le crier avec du monde qui crie devant moi, tu sais. Puis. Puis ça l'a donné probablement le groupe le plus authentique ever, là, tu sais, c'est débile ce qu'ils font. Puis c'est ça, de prendre des compromis pour atteindre un objectif, peut-être que ça va t'amener vers vivre mieux, être capable d'avoir plus de ressources, plus de revenus, être capable d'avoir moins de pression de comment je vais arriver mes fins de mois. Mais en même temps, peut-être que tu vas aussi te dire, Chris, ce que j'ai fait là, c'est pas moi à 100%.
Si t'es connu pour une raison qui est pas la bonne, tu sais, vouloir être connu pour être connu, là, tu sais, si tu fais tout le temps la chose, si tu t'agis juste selon tes valeurs, ce que tu veux faire, quitter. Tu seras jamais mal à l'aise avec où t'es, tu sais. Tu seras jamais.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, si tu te rends quelque part puis t'as du succès, t'es full connu, mais t'as fait ça d'une manière que t'es pas fier, que t'es pas dit j'ai fait la bonne affaire, c'est pas en concordance avec moi-même. Qu'est-ce que ça donne, tu sais?
Tu vas pas le vivre de la même façon. Ouais.
Crissement pas.
Ouais.
T'auras pas la fierté de dire genre j'ai construit ça en étant qui je suis selon les principes selon lesquels je veux vivre, tu sais.
Puis pour revenir à la première partie, quand on parlait du Sandbell, Jay, c'est probablement une des choses qui est le plus insane dans ton parcours, puis dans justement la vidéo d'Audrey Haynes qu'elle a filmée de cette journée-là. Puis ce que je t'ai dit tantôt en part one, c'est toi. Genre la personne qui est dans cette vidéo-là, c'est toi. Sans aucun compromis. Je le sais, je te connais. Tu sais, fait que c'est probablement que pour toi, c'est encore plus gratifiant de t'être rendu là en faisant « Hey, tu sais-tu quoi? Ça, c'est toute mon équipe. Charles Pellerin, c'est le gars qui venait avec moi à fucking Saint-Georges-de-Beauce jouer devant 100 personnes dans un bar. Écoute, c'est ma sœur qui est ma gérante. Ma famille est là. Tout le monde ici, je les connais. C'est mes amis. C'est moi. Puis je suis ici, pas en tant que... Pas en tant qu'une figure de Jay du Temple, là, en tant que fucking Jay du Temple, tu sais. Toi, là, tu sais.
Ouais, tu sais, le titre du prochain show, fucking Jay du Temple, man.
C'est cool, man, c'est hot.
Mais tu vois, le pire, c'est que ce soir-là, la réflexion que j'avais après, c'est qu'on dirait que c'était un stamp de... Ah, j'ai pris les bonnes décisions dans les dernières années. On dirait que c'était un peu ça que ça représentait. Je me souviens pas où j'ai dit ça, mais... Je pense que c'était ça. C'est comme une espèce de... tu sais, moi, fin 2015, j'ai pris la décision de travailler avec ma sœur, tu sais. Puis, et mon ancienne gérante, c'est la première personne qui a eu confiance en moi, c'est la première personne qui a vu quelque chose en moi. Puis, on a énormément de respect l'un pour l'autre, puis je suis encore extrêmement reconnaissant d'elle. Mais c'était pas ça. Je le filais pas, puis c'était rien de personnel. C'était par rapport à moi. J'avais besoin, je pense, d'aller travailler avec ma sœur. Mais à ce moment-là, c'était quand même un move que tout le monde était comme... Dude, qu'est-ce que tu fais, genre? Mm-hmm. T'es pas connu, t'es personne, tu as travaillé avec ta sœur, genre? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Puis moi, j'avais aucun doute que c'était la bonne affaire pour moi. Mais il y en demeure pour moi que toujours en arrière de la tête, t'es comme, je suis en train de faire la bonne affaire, tu sais. Après ça, OD débarque, là, t'es comme, fuck,
je suis en train de faire,
la bonne affaire, man. Puis là, ben, je pense que oui, tu sais, du moins, est-ce que je le fais avec mes valeurs, à ma manière, tu sais. Je le fais de la manière la plus real possible dans ce contexte-là. Je peux pas être plus moi-même dans ce contexte-là, tu sais. Je le fais vraiment. Je mets mes limites, puis je fais ce que je suis capable de faire, tu sais. Puis après ça, ben là, Chris, OK, le one-man show, on le produit-tu nous-mêmes? Hey, je pense que oui, t'es-tu sûr? Ouais, OK, je suis en train de faire la bonne affaire. Tu sais, tout ça, tu sais, prendre mon ami Alex, que j'ai connu au football comme directeur de tournée, je suis en train de faire la bonne affaire? C'est mon technicien, man. C'est lui qui allume les lumières, qui part la toune, c'est lui qui gère ma tournée. Je fais-tu la bonne affaire? Name it, là, tu sais, tout ça, là. Et à un moment donné, on est arrivé cette journée-là, puis là, j'étais en arrière avec des amis du monde que j'aime, que je remercie. Tu sais, Guillaume Girard qui faisait la mise en scène, tu sais, qui est un gars de théâtre, qui est un gars qu'on s'est connu un peu sur le coin d'une table, puis tout ça, puis j'étais comme, hey man, je pense que j'ai besoin de ton aide. Puis Safia que j'ai rencontrée, tu sais, à cause des frères à Kat Levac qui ont fait Grambé avec elle. Puis là, mais c'est comme, hey man, Saf, comme c'est devenu une amie, puis je pense que j'ai envie de partager ce moment-là avec toi. À un moment donné, j'ai fait, je pense j'ai fait la bonne affaire. Je pense j'ai fait la bonne affaire, tu sais, ou du moins, à chaque fois que ces décisions-là arrivaient, je les faisais, justement, j'y pensais, puis j'étais comme, en ce moment, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est ça, je le fais, go, tu sais. Puis, fait que, je me trouve chanceux d'avoir ce genre d'instinct-là aussi. Là, j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, puis la raison pour laquelle je fais ce que je fais dans la vie, c'est parce que je suis vraiment l'heureux mélange de vous deux. Je suis vraiment chanceux. J'ai vraiment 50-50, mon père, ma mère. Du temps, c'est le côté de ma mère, c'est les comics, c'est les funnés, c'est les tannants, c'est les veilleux, c'est les parties, c'est ah ouais donc, c'est moi j'en ai, toi t'en as. C'est les Kyrion, c'est la business. Mon père, c'est l'entrepreneuriat. Mon père, c'est le côté production. Mon père, c'est le côté... Chris, on visait 5 000 billets. On a vendu 10 000 billets. Moi, tu sais, je suis vraiment l'heureux mélange des deux, tu sais. Puis, fait que je me trouve... c'est un heureux mélange de travail. Tu sais, souvent, les gens sont comme, on crée notre chance. Je suis comme, oui, mais la chance, c'est une vraie affaire. Il y a aussi un concours de circonstances.
Tu sais, où tu nais, tes parents, tout ça. C'est ça, tu sais. C'est des choses que tu as choisies. C'est une bénédiction. Là. Penses-tu qu'aujourd'hui... Tu sais, mettons qu'on prend comme exemple la décision d'OD, là, d'animer OD. Penses-tu que peut-être que si t'avais pas pris cette décision-là, tu dirais quand même aujourd'hui, j'ai pris les bonnes décisions?
Probable. J'espère que oui, en fait. J'espère que oui.
C'est une hypothétique qui est dure.
C'est impossible à savoir.
C'est impossible à savoir, mais j'aime comment ça s'est fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qui est certain, là, c'est que j'étais pas leur premier choix. Si on recule en 2017, là, j'étais pas leur premier choix. C'est sûr. Il y a du monde qui ont dit non avant moi. Ça, c'est sûr. Après ça, le fait qu'ils prennent un guess avec moi, faire « Chris, ce gars-là... »
On s'en va ailleurs.
Moi, j'anime d'un bar, là, mon gars. Là. Moi, là, j'anime au jockey encore. Là. Je fais les premières parties d'Adib Al-Khalidé. Je suis ailleurs. Là.
Ouais.
Puis, ils sont comme non, on veut lui. Et moi, à ce moment-là, de faire... Non, merci. Pour vrai, non, merci. Puis moi, c'était comme clic, merci, c'est terminé. C'était cette semaine weird où je me suis fait proposer au dé. Je suis en paix avec ma décision. J'ai dit non. Puis eux qui reviennent à la charge, je fais non, c'est toi qu'on veut. Toi pour ce que t'es, puis ce que tu représentes, puis comment tu parles, puis tout ça. Puis finalement, on a discuté, puis ça a fait en sorte que j'ai fait oui. Puis ça a fait en sorte aussi que le fait que j'ai dit non, ils ont fait Chris, OK, attends, là. Fait qu'ils m'ont toujours pris. C'est probablement le projet où je suis le plus libre, OD, curieusement.
Ouais.
Parce qu'ils sont comme, go, ils ont confiance en moi, ils savent since day one, ils savent. Moi, c'est comme ça que je le fais. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre ça, je le ferai pas. Il n'y a pas de problème, tu sais. Fait que je pense que si je l'avais pas fait, je pense que j'aurais été en paix. Mais je suis vraiment heureux de la tournure des événements. Ceci dit, puis je l'ai dit, répété souvent sur le podcast, je pensais vraiment que ça allait être ma dernière session en Afrique du Sud. Mm-hmm. Puis il y en a une autre qui risque de s'en venir. Ben, c'est ça, là, on sait pas, là, mais en même temps, avec le contexte, il y a une partie de moi qui fait si on réussit à lander cette prochaine saison-là, c'est sûr qu'elle va être différente.
Ouais.
Fait que pour moi, je suis content parce que je fais.
Tu sors de là.
C'est que je fais autre chose. Mm-hmm. La soupe va avoir été brassée, mais veux pas, je prépare ma sortie aussi. En tête, je fais, à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre qui va l'animer ce show-là, puis qui va l'amener ailleurs, puis que les gens vont dire, ah, cette personne-là est meilleure que Jay du Temple. Puis je souhaite.
Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait le Joker, c'est ça qui se passe. Là.
Oui, c'est ça, tu sais. Puis il faut que ce soit ça. Tu sais, quand moi, avant que je pogne le jockey, mettons, j'animais la soirée du mot au jockey, avant moi, c'était Phil Roy, man. Quand Phil Roy est parti de là, c'était le king de la place, man. C'était le plus drôle d'un bar. Il n'y avait rien à faire. Personne ne pouvait suivre Phil Roy. Puis là, c'était comme, mesdames et messieurs, la personne qui va prendre la place à Phil Roy, c'est ce gars-là là, dans le coin là, qui est un qui est pas clair. Là. Il a les cheveux 6 mille longs, là, mais c'était pas prêt encore. Là, puis et tout le monde était comme, t'as des gros souliers à remplir. Je suis comme, je sais, t'sais, puis c'est terrifiant. T'sais. Mais 3 ans après, quand est venu le temps d'offrir les lundis de l'humour au jockey à Charles Pellerin, tout le monde disait la même affaire. Tout le monde disait, tabarnane, Charles, t'as des gros souliers à remplir. C'était Jay du Temple qui était là. Mm-hmm. Mais t'as recul de 3 ans, personne ne savait mon nom. Puis quand Charles a passé à POC, c'était rendu ça. J'allais au jockey, c'était plus à moi. C'était plus mon affaire, c'était la sienne. Tant mieux, tu sais. Tant mieux si on se passe la POC de même, tu sais. Fait que je sais pas. Tu sais, OD, c'est un... Tu sais, moi puis PH, on en a souvent parlé. C'est une réflexion ongoing pour moi. Parce que ça représente quelque chose, OD, que tu le veuilles ou non. Puis je sais que moi, je le fais de manière sincère puis humaine. Mais après ça, il y a des choix de la production qui amènent l'émission dans une certaine direction que moi, personnellement, c'est pas là que j'irais. Ceci dit, moi, à un moment donné, j'ai accepté. J'ai fait, hey, ce show-là, je l'anime. Je le produis pas. Je fais juste ma partie, je la fais. Mais après ça, je fais, ben, il va y avoir une autre affaire après. Mais là, moi, de prendre, tu sais, tu me demandais en partie 1, PH, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est ça que je vais préparer, tu sais.
Pour terminer, parce qu'il faut, laisser le studio,
ouais.
Tu sais, de ma question, si t'avais pas fait ça, est-ce que tu dirais que t'as pris les bonnes décisions? Moi, j'ai eu ces conversations-là souvent dans les dernières années, après OD, justement, de comme, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas fait OD? Parce qu'on s'entend que là, ma vie, maintenant, est 100% tributaire de Occupation Double. Tu sais, je veux dire, je me suis formé, etc., etc. Puis, mais en ce moment, ce que je fais professionnellement, c'est 100% tributaire d'Occupation Double, puis je le cache pas, tu sais. Sauf que, à la réponse, qu'est-ce que tu ferais si ça avait pas été de ce tremplin-là? Ben, ma réponse à moi, c'est quelque chose d'autre qui me rendrait heureux.
Exact. Puis
dans lequel j'aurais du succès parce que j'ai cette confiance-là en moi. Puis l'autre point, si tout le monde pouvait aller à OD, si tout le monde pouvait animer OD, ou si tout le monde pouvait participer à OD, il y a beaucoup de monde qui le ferait. Sauf que c'est pas tout le monde qui peut animer OD. Puis c'est pas tout le monde qui se pointe dans une salle avec les 3 juges qui te posent des questions qui sont pas faciles, puis qui est intéressant, qui est capable de bien se présenter, qui a un background qui rend cette personne-là une personne intéressante à mettre devant la télé. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui va à OD au même niveau, au même niveau de narration, mettons, là, tu sais. Mais quand même, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Fait que c'est du monde qui sont quand même uniques, exceptionnels, d'une certaine façon. Puis pour l'animer, je veux dire, c'est encore plus vrai pour animer OD. Si tout le monde veut animer OD, tout le monde anime OD. Mais ils t'ont pris parce que t'es toi, tu sais. Fait que toi, si t'avais pas pris parce que t'es toi, quelqu'un d'autre aurait fait, hey, lui. Tu sais, je veux dire, Julie Snyder, quand elle t'a vu, là, Julie Snyder, probablement qu'elle a un nez pour flairer les talents ou les gens exceptionnels parce qu'elle a fait ça de sa carrière. Sauf qu'il y en a d'autres qui ont ce talent-là. Il y en a d'autres qui sont capables de donner une chance à quelqu'un qui apparaît comme exceptionnel. Fait que ma question, est-ce que si tu avais dit non à OD, moi j'ai l'impression que tu aurais eu beaucoup d'autres opportunités.
Mais oui.
Tu les aurais pris. Tu te retournerais après ça en regardant le chemin parcouru 4 ans plus tard, puis tu ferais Chris, j'ai pris les bonnes décisions.
Mais je pense aussi que. Excuse-moi, Dom.
Non, mais j'allais juste dire que c'est le genre de questions que je pose en me doutant un peu de la réponse. Ouais, dans le sens que à la lumière de ce qu'on disait tantôt, justement, de toujours prendre des décisions par rapport à quitter, puis de continuer cette recherche-là, si tu avais pris d'autres décisions, tu aurais été en paix aussi parce que tu aurais pris pour les bonnes raisons.
C'est ça.
Ta vie serait différente, tu serais ailleurs. Mais très bien, tu sais, très heureux, sans doute. Là.
À cette époque-là, quand on m'a fait la job, le pire conseil que tout le monde me donnait, c'était tu vas prendre la bonne décision. Puis j'étais comme, allez, tout chier, tabarnak. Genre, je braille tout seul dans mon char, parce que je sais pas quoi faire. Esti, là, viens pas me dire que c'est moi qui ai la solution. Là, tu sais.
Je fais ce que tu veux. Ouais, mais je le sais pas.
Ah, c'est ça, je voulais que quelqu'un choisisse pour moi. Tu sais. Puis finalement, j'ai fait ce choix-là. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai que. Puis ce que je trouve qui est vrai de ma relation avec la production d'Occupation Double, c'est que il y a un grand, grand, grand respect puis une grande reconnaissance de part et d'autre. C'est-à-dire que, puis je pense que c'est vrai pour toi aussi, c'est que oui, OD nous a amené à un niveau où nous a offert un tremplin incroyable.
Définitivement.
Je suis reconnaissant et je le serai toute ma vie.
Ouais.
Ceci dit, il y a une part qui nous appartient.
Ben
aussi.
Exact, tout à fait.
Et je pense que ça aussi, tu sais, c'est de la reconnaissance mutuelle des deux bords. Les deux, on est contents, puis les deux, on se remercie. Puis après ça aussi, c'est de pas s'approprier le succès de l'autre.
Mm-hmm.
Parce que ce que tu as fait en sortant d'OD, ça t'appartient. Ouais. Oui, tu avais un tremplin, oui. Mais après ça, c'est toi qui... tout ça, ça te revient à toi, tu sais. Qui fait en sorte que il y a un faut que ça reste...
C'est mutuel.
C'est ça.
Tout à fait. Ouais.
Exact, exact.
Ouais. Man, ça fait tellement du bien d'être de retour dans le studio, les gars.
Mm.
Je pourrais même pas te décrire en mots comment c'est enrichissant puis comment c'est le fun.
J'ai l'impression d'avoir pris une grande bouffée d'air. On dirait que...
Sortir de l'eau, là.
Ah ouais, vraiment, vraiment. J'espère que les gens qui ont écouté se sentent de la même manière.
Ouais.
Mais merci, encore une fois, les garçons. Vous êtes vraiment... J'ai le mot spéciaux. Comme dans mon esprit, dans mon cœur. Comme le studio SF, c'est vraiment il y a quelque chose vraiment de spécial dans ce lieu-ci. Puis je dis lieu, il n'est pas juste physique, là, ce qu'il représente dans mon esprit, dans ma carrière, dans les conversations. C'est vraiment un endroit sans compromis où je me sens juste bien. Puis je trouve que c'est vous qui avez fait ça, donc je vous remercierai jamais assez.
Ben, merci beaucoup, man.
C'est à toi, Jay.